Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bienvenue sur Zoom Écologie et Radio Fréquence Paris Pluriel pour une nouvelle émission consacrée à l'alimentation de la ville. Donc j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Guillaume Schmitt et Astrid Girard. Julien, tu es cofondateur de la Cagette, supermarché coopératif à Montpellier, et désormais cofondateur et président, je crois que tu donneras tes titres après si tu veux, de Graucoop, supermarché coopératif messin. Et Astrid, tu travailles au réseau AMAP Île-de-France, avec un statut, d'ailleurs il y a un titre que je te laisserai peut-être le soin de préciser si tu le souhaites. Et donc je vous ai invité pour parler de alimenter la ville, un sujet vaste et que du coup nous allons restreindre dans cette émission à un peu vos domaines respectifs, qui est alimenter la ville de manière pas trop capitaliste et dégueulasse, disons, et avec la question de comment peut-on alimenter une grosse ville où il y a beaucoup de gens, avec du coup du béton partout autour, et quid de voilà, comment faire venir des légumes, et combien, et pour qui, et par qui. Voilà, je vous propose de commencer peut-être avec une présentation personnelle et un peu de vos domaines respectifs. Si Astrid, tu veux commencer par te présenter les AMAP.
Ok. Donc moi, je suis une salariée du réseau régional qui regroupe l'ensemble des associations AMAP, mais aussi l'ensemble des fermes qui commercialisent leur production en AMAP, en Île-de-France. AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ce sont des associations portées par des citoyens et citoyennes qui va permettre à ces personnes de s'engager auprès d'une ferme pour des produits comme les légumes, mais ça peut être aussi un élevage ou pour des œufs ou des produits de chèvre, par exemple. Donc, on va s'engager auprès de cette ferme à lui acheter sa production sur une saison. Ça peut aller de 6 mois à 1 an. En général, en Île-de-France, on favorise les partenariats de 1 an. Et les membres de l'association vont aussi préfinancer la production. Donc ça veut dire qu'ils vont régler une partie de la production avant d'avoir récupéré les produits. Et ensuite, ils récupèrent du coup les produits qu'ils ont préfinancés chaque semaine lors de la distribution AMAP et puis en fonction de la saisonnalité. Par exemple, des fromages de chèvre, on n'en aura forcément pas toute l'année parce que les chèvres ne font pas forcément du lait toute l'année en fonction des pratiques. Et donc voilà, ces associations sont portées uniquement par des bénévoles qui vont s'engager pour mettre en place les contrats avec chaque ferme, parce que chaque partenariat passe par un contrat qui est signé entre l'adhérent et la ferme. Donc les bénévoles vont aussi permettre que la distribution ait lieu chaque semaine dans de bonnes conditions, parce que il faut qu'il y ait des personnes qui viennent préparer les légumes, accueillir les personnes qui arrivent, accueillir les fermes. Et puis aussi, ces personnes-là vont chercher de nouveaux adhérents pour l'association. Et donc ça, c'est un travail qu'elles font notamment pour les fermes, pour assurer qu'il y ait suffisamment d'adhérents par rapport aux besoins des fermes. Les fermes en AMAP, elles vont s'engager à amener une production chaque semaine de qualité qui s'inscrit dans les pratiques de l'agriculture biologique. La certification n'est pas obligatoire, mais on est quand même dans des pratiques qui relèvent de l'agriculture biologique. Elles vont s'engager aussi à être dans une posture de pédagogie sur leur métier. Donc il y a vraiment un objectif de transmettre aux citoyens et citoyennes ce que ça implique d'être paysan et paysanne aujourd'hui, les réalités de ce métier-là, et aussi d'accueillir les amapiens et amapiennes sur sa ferme potentiellement pour qu'ils comprennent en grandeur nature ce en quoi consiste ce métier. Et la MAP va permettre aussi, surtout à la ferme, c'est important, en préfinançant la production, la MAP va permettre à la ferme de savoir que sa production est déjà vendue et donc se concentrer sur tout mettre en œuvre pour la produire dans les meilleures conditions possibles. Et ça va aussi assurer une stabilité financière en termes de trésorerie parce qu'il y a une avance un peu, on va dire, de la part des amapiens.
Tu parlais de fromage de chèvre. On a souvent, enfin, en tout cas, moi, j'ai souvent l'image des AMAP comme de structures qui mettent en relation les citadins, citadines avec des maraîchers, maraîchères. Mais du coup, ce n'est pas forcément des paniers de légumes. Ça peut être aussi n'importe quel type de production alimentaire. Si je fais des marrons, je peux épauler mes marrons en AMAP?
Alors, nous, en Ile-de-France, on essaye d'accompagner les AMAP pour qu'elles travaillent sur des partenariats avec sur des produits, on va dire, plutôt franciliens, quand même. Parce que, un partenariat AMAP, ça demande quand même un lien direct, une présence, la possibilité pour les personnes d'aller sur la ferme. Et donc, si on travaille avec quelqu'un qui produit des châtaignes en Ardèche, eh ben, on ne pourra pas avoir la même qualité de contact. Donc, on va privilégier les partenariats sur des produits locaux. Après, chaque AMAP est libre de faire ce qu'elle veut, donc on ne va pas tout contrôler. Mais en effet, le modèle AMAP peut très bien s'appliquer pour d'autres productions que le maraîchage. Par contre, il faut penser le fonctionnement du partenariat en fonction des réalités de cette production. Donc, par exemple, quand on s'engage sur des légumes, on accepte chaque semaine de ne pas choisir ses légumes. On va avoir les légumes en fonction de ce qui a bien poussé. Comment on peut appliquer ça pour les fromages de chèvre, par exemple? Eh ben, l'idée, ça va être de dire, bon, ben, on va laisser une certaine flexibilité aux chevriers et chèvrières pour qu'ils composent une assiette de fromage en fonction de la maturité des fromages, le niveau d'affinage, ce qu'ils ont de disponible. Alors, on va leur donner une flexibilité. Donc, on essaie de s'engager sur une part de production qui peut varier, comme ce serait le cas pour des légumes. Pour les œufs, par exemple, on va s'engager sur une part de ponte. Donc, en fait, on va accepter que des fois, on peut avoir que 4 œufs dans notre boîte et des fois 8, parce qu'en fait, une poule, elle va pas pondre de façon régulière. Elle va pas pondre systématiquement 6 œufs, quoi. Elle va pondre de façon, selon une courbe, qui monte et puis qui descend. Mais les frais d'alimentation de ces poules vont être la même pendant toute cette courbe. Donc, l'idée, c'est quand même d'assurer un revenu fixe pour l'éleveur, malgré cette variation dans la production.
Peut-être qu'on reviendra sur cette dimension de la prise en compte de l'aléa, et du coup l'intégration de l'aléa dans le lien à l'alimentation. On y reviendra plus tard. Julien, est-ce que tu veux nous parler de toi, de ton modèle du coup des supermarchés coopératifs?
Oui, bonjour Elio, bonjour Astrid, bonjour à toutes et tous. Mon modèle est un peu tous les modèles citoyens d'alimentation, parce que quelque part l'idée de se regrouper pour maîtriser un petit peu ce qu'on fait, notamment son alimentation, n'est pas nouvelle. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais les coopératives de consommation ouvrière ont joué un grand rôle en Europe au XIXe siècle, notamment en France et en Angleterre. L'idée a beaucoup voyagé, a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, bon, les AMAP, c'est quoi, Astrid, 20-25 ans, c'était au début des années 2000, les AMAP, c'est 25 ans d'existence?
20 ans, 22 maintenant d'existence, ouais, la première AMAP est née en 2001 à Aubagne.
Oui, c'est ça, et après, ça, c'était vraiment la folie à l'époque, ça s'est un petit peu calmé depuis, peut-être que ça repart à nouveau, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une profusion d'initiatives citoyennes autour de l'alimentation. Et j'ai envie de dire, il y a une espèce de gradient, c'est-à-dire on peut très bien, pour moi, la meilleure organisation possible, c'est un collectif informel, on peut très bien faire un groupement d'achat dans un garage avec des potes ou des colocs ou des adelfes, peu importe, et ça marche très bien comme ça. On peut avoir une AMAP qui est quand même, c'est du boulot, quoi. C'est quelque chose qui a un sens, qui est structuré dans la durée. On peut avoir un Mon Épi ou une épicerie autogérée qui sont des modèles de petits magasins qui sont localisés. On peut avoir ce qu'on fait nous, hein, ce qu'on a fait donc à Montpellier, à Metz, un supermarché coopératif. Alors, c'est une idée qui, comme dit, vient d'assez loin, qui vient des coopératives ouvrières du 19e et qui s'inspire aussi du mouvement Food Justice aux États-Unis, en gros des habitants des quartiers populaires qui disent qu'ils sont légitimes pour gérer leur alimentation et puis avoir aussi peut-être des meilleurs produits, des produits plus frais, comprendre ce qu'ils bouffent ou ce qu'on leur fait bouffer dans un système alimentaire technicien. Et du coup, cette idée a été réimportée en France, à Paris, justement, par Tom Booth, qui a ouvert la Louvre en 2015. Et on l'a suivi d'assez près à Montpellier en ouvrant la Cagette en 2017. Nous, là, on vient d'ouvrir un supermarché à Metz, il y a 6 semaines, c'est pour ça que je suis un peu fatigué là. En vrai, je sors pas trop la tête des rayons pour l'instant. Et donc, un supermarché coopératif participatif, qu'est-ce que c'est? C'est une coopérative, donc il s'agit d'une société possédée par ses usagers et usagères. Donc, on achète des parts de société pour y rentrer. Ça peut être des SAS, des SCOP, des SKIC. Enfin, nous, on est une SKIC, mais c'est juste des histoires de statut juridique. Et c'était également un modèle participatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas des clients et des serviteurs ou des employés de Lidl surstressés, des gens qui poussent leur caddie. Chez nous, tout le monde est à la fois copropriétaire, client et participante ou participant en venant faire un service bénévole de 3 heures tous les mois dans son magasin. Donc, tu ne peux acheter que si tu passes 3 heures dans le mag à tenir la caisse, à réceptionner des produits. Un petit peu comme l'engagement de bénévoles dans la map, hein, finalement.
C'est vrai que c'est un point sur la map qui n'est pas très clair, en tout cas pour moi. C'est un système d'engagement de créneaux de bénévolat à faire, ou c'est sur le principe vraiment de la libre, du libre engagement de « allez, je vais faire mon créneau » ou alors « je le fais jamais » et puis c'est pas grave.
Alors, il y a un engagement de normalement des amapiens et amapiennes de participer à un certain nombre de distributions dans l'année sur leur contrat pour que, en gros, la charge de travail soit répartie entre tout le monde. Après, c'est plus ou moins respecté. Il y a des personnes qui auront systématiquement des contraintes et qui pourront pas venir aider à une distribution. Ce que je mets en avant, moi, dans l'accompagnement des AMAP, c'est de dire, eh bien, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas aider à la distribution, peut-être qu'elles peuvent faire quelque chose pour aider l'AMAP de chez elles. Une tâche, par exemple, créer la fiche de l'AMAP, alimenter le site internet de l'AMAP. Ça, c'est des choses que les gens peuvent faire de chez eux. Si jamais ils sont pas disponibles et qu'ils savent qu'ils pourront jamais venir aux distributions. Parce que comme je le disais, au-delà de l'engagement à aider sur 3 à 4 distributions dans l'année, y a un certain nombre d'autres tâches qui sont à faire pour que l'association fonctionne. Et donc, ces tâches-là, c'est important qu'elles soient réparties entre un plus grand nombre de personnes. Le plus on répartit les tâches, le plus efficace on est et moins lourde est la charge de travail.
En termes de, comment dire, de gouvernance, pour employer des gros mots, les supermarchés coopératifs, il y a différentes personnes qui ont des statuts différents, qui participent au fonctionnement. Il y a les bénévoles, il y a les salariés, et tout ce beau monde est regroupé dans des systèmes de prise de décision. Julien, si tu veux peut-être développer...
Ouais, bon, ça réclame plusieurs émissions, évidemment, hein, sur comment on essaie de s'organiser, de s'entendre pour décider. Pour être bref, à Metz, on a créé une SCIC, donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif. L'idée, c'est d'intégrer plusieurs sortes de personnes physiques et morales à la gouvernance de l'entreprise. On a un collège usager qui est les usagers de la coopérative sont regroupés en des collèges, donc on a un collège usager qui est majoritaire en nombre et presque en voix. Et après, on a d'autres collèges qui intègrent les salariés, les fournisseurs, ça nous a semblé important de les faire participer aux décisions, des partenaires d'économie sociale et solidaire et des membres de soutien. Ça, on a mis en place, c'est un peu une usine à gaz, les SCIC, c'est pas très connu en France. Tout le monde connaît bien les SCOP avec l'IP et tout ça. Mais la SCIC, c'est l'étape encore d'après, si tu veux, qui est utilisée pas mal dans la tech, mais qu'on peut très bien utiliser pour nous. Un peu comme les fondations peuvent aussi être utilisées au service de projets sociaux, hein, pas forcément pour blanchir l'argent de l'EMH. Mais du coup, la SCIC, on a fait ça parce qu'à Montpellier, on avait fait une société anonyme classique et on a eu justement des problèmes de gouvernance avec les salariés dont je faisais partie, qui avaient beaucoup de poids dans la gouvernance concrète parce qu'ils sont là H24 dans le magasin à faire des trucs. Alors que ça n'était pas reconnu au niveau des statuts de la société. Donc on a essayé de mettre en place des correctifs. Après, la gouvernance partagée, c'est un peu comme mixité sociale, c'est un mot fétiche que tout le monde répète et que et qu'on aimerait bien voir effectivement réalisé quelque part. Donc on fait ce qu'on peut, ouais, pour être au moins transparent, pour être le plus inclusif possible au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire d'agir de façon positive en direction des catégories de personnes qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer ou de prendre des responsabilités, hein. On a des problématiques de genre ou dans les, je pense, les AMAP, c'est pareil. Les coopératives alimentaires, les 2/3 des membres ou pas loin sont des femmes. L'essentiel du travail est fait par des femmes, c'est comme à la maison. Et pourtant, elles ne se sentent pas assez légitimes pour occuper des postes aux responsabilités. La preuve aujourd'hui, c'est moi le président de la SCIC, c'est bien dommage. J'aurais préféré que ce soit une femme, mais bon, ça va changer, j'espère. Voilà, on essaie de faire un peu d'action positive pour rééquilibrer les choses, quoi. Parce que voilà, où est-ce qu'on réalise la mixité sociale ? En ce moment, c'est de plus en plus difficile. L'école, ça fait longtemps que c'est foutu. L'église, personne n'y va. Il reste peut-être le supermarché. En tout cas, c'est le pari qu'on fait. Bon, là, j'ai plein de choses à dire sur les catégories de population et les produits, mais j'imagine que ça vient après dans l'entretien.
On peut y aller maintenant, hein. Je pense que c'est pertinent. C'est vrai qu'il y a cette question de qui fait partie des supermarchés coopératifs, qui fait partie des AMAP, et peut-être au passage aussi, on peut peut-être commencer par là d'ailleurs, avant d'aller vers qui vraiment fait partie, c'est combien de personnes on parle. Est-ce qu'il y a 3 AMAP qui se battent en duel en Ile-de-France ? Est-ce qu'il y a 100 ou 10 000 personnes dans le supermarché coopératif ? peut-être que ça peut valoir le coup quand même de donner quelques ordres de grandeur au moins. Astrid, si tu veux nous dire en termes d'AMAP en Ile-de-France, où on en est.
Donc la dynamique des AMAP, elle a beaucoup varié dans le temps. Ce qui est sûr, c'est que quand le modèle AMAP a vu le jour en 2001 dans le Sud et puis en 2003 en Ile-de-France, il y avait une effervescence. Donc il y a vraiment un nombre d'AMAP qui a augmenté de façon exponentielle les 10 premières années. Moi, je vois derrière cette montée en puissance aussi quand même la structuration de réseau qu'il y a eu très rapidement, parce que dès 2001-2002, il y avait un réseau à l'échelle de la région Provence, et dès 2004, il y a eu un réseau d'AMAP à l'échelle de l'Île-de-France, et donc ça a aidé à augmenter le nombre d'AMAP. Par contre, on en parlera peut-être plus tard, mais quand le nombre d'AMAP a augmenté, on n'avait plus suffisamment de fermes maraîchères bio partantes en Île-de-France disponibles pour répondre à cette demande. Donc les AMAP sont allés chercher un peu plus largement dans les fermes maraîchères qui pourraient commercialiser leur production en AMAP. Donc elles sont allées voir des fermes dans l'Oise ou dans le Loiret. Des fois, ça peut être pertinent en termes de localisation de l'île de l'AMAP, parce que l'Île-de-France est un grand territoire, mais des fois, c'était pour des AMAP parisiennes, donc les distances parcourues peuvent être assez grandes. D'ailleurs, partant de ce constat, le réseau AMAP a commencé à devenir un acteur de l'accompagnement à l'installation, parce qu'on voyait qu'il y avait un manque criant de fermes bio en Île-de-France et qu'il y avait un enjeu d'accompagner cette installation, on pourra en parler plus tard. Et donc sur la dynamique de création d'AMAP, on a vu qu'à partir de 2020-2019, elle commence à stagner, donc on a moins d'AMAP qui se créent aujourd'hui. À une époque, on avait 15 AMAP qui se créaient par an. Maintenant, on est plus à partir de 2020-2021 sur 5, 6, 7 AMAP qui se créent par an. Cette année, on voit beaucoup d'entreprises qui nous contactent, soit à l'initiative de salariés, soit à l'initiative de personnes responsables de la RSE pour créer des AMAP. Donc, c'est de nouveaux projets qu'on essaie de voir comment on peut les penser. Et donc, on arrive à un nombre d'AMAP qui se stabilise autour de 380 AMAP actives en Ile-de-France. Ça représente environ 21 000 foyers de personnes qui adhèrent. Et donc, si on fait une moyenne par rapport à la taille des foyers en Ile-de-France, on arrive à un peu moins de 50 000 personnes qui consomment potentiellement en AMAP. Donc, c'est une grosse moyenne. Et j'avais les chiffres aussi, si vous voulez, à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, on estime qu'on serait autour de 250 000 consommateurs, consommatrices. Mais c'est une estimation parce qu'on n'a pas les données forcément, le suivi sur tous les territoires. Donc dans l'autre pendant de ce partenariat-là, côté ferme, donc nos AMAP franciliennes, elles sont en partenariat avec environ 400 fermes, et sur ces 400 fermes, il y en a 212 qui sont en Île-de-France, parce que donc les AMAP des fois peuvent être en partenariat avec des fermes un peu plus éloignées, sur ces 212, je crois qu'il y en a, on est un peu moins d'une centaine ou 99 qui sont en maraîchage. Donc il y a quand même de la diversité dans les fermes partenaires des AMAP.
Ouais, bah, pour les AMAP, ça fait du monde, hein. Bravo, 250 000 personnes au niveau national, c'est pas rien. Après, il faut distinguer le nombre de personnes touchées par un phénomène et le chiffre d'affaires, pour dire des gros mots. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, l'achat de denrées alimentaires se fait sous forme d'oligopole. Il n'y a pas d'autre mot. On a 4 grandes centrales d'achat qui sont des conglomérats de la grande distrie qui font 92% en volume des achats alimentaires. Donc on a un phénomène, si vous voulez, de boîte noire où des industriels de la distribution, avec la complicité d'industriels de l'agriculture, étranglent les producteurs et mettent les produits au prix qu'ils veulent. Les trucs sont achetés, on ne sait pas combien sont vendus, on ne sait pas combien ni pourquoi. Donc il y a un phénomène d'obfuscation ou d'opacité des prix agricoles. On ne peut jamais discuter du prix parce que ce qui est important, c'est les marges des actionnaires. Voilà, ça c'est la réalité. 9 dixièmes des achats par 4 centrales, c'est un oligopole, il n'y a pas d'autre terme. Et donc, ce qui est important en termes alimentaires, bien sûr, il y a le nombre de personnes touchées par une initiative, un marché de plein vent, une AMAP, etc. Mais moi, j'ai tendance à regarder aussi le chiffre d'affaires, c'est-à-dire combien on va dépenser par mois d'argent et où va aller cet argent, hein, parce que très peu d'entreprises dans l'agroalimentaire font l'effort de te dire comment est-ce que la chaîne de valeur est répartie. Etikable ou Artisan du Monde, pour citer les deux entreprises vertueuses qui existent et avec lesquelles tous les supermarchés coopératifs travaillent, font l'effort de faire un camembert et de dire, voilà, dans le prix du produit que je te vends 5 euros, il y a 1,50 euros ou 2 qui vont au producteur, 1 euro qui vont à nous en tant que distributeur, 1 euro de frais de transport, tant de TVA, etc. C'est les seuls qui le font, les autres, on ne sait pas. Donc évidemment, les marges sont le secret le mieux gardé de la grande distribution. Ils se gardent bien de nous le dire. Et là aussi, il y a un travail d'éducation populaire à faire sur la formation des prix et des marges. Bref, ce n'est pas le sujet. En termes de personnes concernées par les supermarchés coopératifs en France, on recense à peu près, vraiment strictement, dans le modèle que j'ai décrit brièvement précédemment d'un supermarché coopératif et participatif, on a à peu près 80 projets. Les projets, ça peut être en phase d'idéation un petit groupement d'achat dans une épicerie ou dans un garage, comme dit, comme des locomotives comme Super Quinquin à Lille, la Cagette à Montpellier ou la Louve à Paris, qui ont plusieurs milliers d'adhérents. Mais en termes de personnes, je pense pas du tout qu'on soit à 250 000. En chiffre d'affaires, par contre, l'idée, c'est de proposer aux personnes de faire l'intégralité de leurs achats du quotidien dans le même endroit. Donc ça suppose des choses un petit peu choquantes a priori, c'est-à-dire avoir des produits qu'on n'aime pas. Ça, c'est une des choses que beaucoup de personnes qui rejoignent un supermarché coopératif et participatif font pas forcément en tête. Ils se disent, mais ça va me ressembler. Il y aura que des produits bio, il y aura que des produits sans gluten, il y aura que des produits véganes, il y aura que les produits que j'ai l'habitude de manger, alors qu'en fait, pas du tout. On n'a pas, nous, on fait partie à Metz, là, des supermarchés coopératifs qui n'ont pas de charte de choix de produits, parce que pour nous, c'est une façon d'exclure les gens. Encore une fois, le chiffre d'affaires de la bouffe et les achats alimentaires, c'est la grande distrie qui se taille la part du lion, c'est les magasins de hors discount, les Lidl, les Aldi, les Leclerc, ceux qui communiquent, qui ont une belle image prix, qui attirent le plus de monde, encore plus en ce moment. Et je rappelle que la population française est composée à 40% d'ouvriers et d'employés. Ces personnes-là, il y en a pas mal qui participent aux AMAP, certes, mais elles vont faire l'essentiel de leurs achats en chiffres dans ces magasins. Donc nous, notre pari, c'est de proposer, sinon exactement les mêmes produits, du moins d'avoir une offre inclusive au niveau des produits. Et on profite d'être un supermarché, d'avoir de la place pour te laisser le choix, tout simplement. Donc, quelqu'un qui vient faire ses courses dans un supermarché coopératif, il va avoir son panier avec les produits qu'il a l'habitude, qu'il a choisi, hein, puisque bien sûr, les coopérateurs choisissent les produits, disent ce qu'ils veulent, et nous, on les met sans aucun jugement. Mais il va aussi avoir à côté des produits qui lui semblent pas bons. Tous les jours, je me fais engueuler parce que là, actuellement, j'ai des courgettes en rayon. Bon, j'ai pas mis de tomates, hein. On est le 24 avril, il gèle la nuit. J'ai des courgettes. Il y a des gens qui me disent, mais c'est hors saison. Ben, effectivement, mais si je ne proposais que des légumes bio et de saison, ben, t'aurais des radis, peut-être quelques salades et puis les dernières patates aux carottes et va te faire foutre, hein. En Moselle, on a un peu la même problématique qu'en Île-de-France. C'est qu'on a 27 maraîchers pour une conurbation de je sais pas combien de centaines de milliers d'habitants. Et la production locale ne suffit pas du tout à combler les besoins. Donc après, tout ça, ce qu'il faut interroger, après je m'arrête, pardon, je t'avais dit que j'étais bavard, ce qu'il faut interroger derrière tout ça, c'est la notion de besoin et la notion de liberté. Alors j'en profite pour recommander une référence que j'avais sortie pour ça, peut-être vous le connaissez, c'est les éditions La Lenteur, là. Terre et Liberté d'Aurélien Berland. Alors le vrai bouquin important sur l'alimentation et la subsistance, c'est La Subsistance de Maria Miss, qui est la grande philosophe de l'écoféministe dont je recommande chaudement la lecture. C'est absolument à lire ce livre, c'est l'avenir, c'est le sens de la vie. Celui-là, ça parle un petit peu de la même chose, Terre et Liberté d'Aurélien Berland aux éditions La Lenteur, mais c'est plus axé sur justement la notion de liberté, c'est-à-dire que la relation dialectique qu'on a avec le progrès technologique qui est censé nous rendre libres, mais qui en fait nous oppresse. Et on a la même chose dans la bouffe et dans le système alimentaire. Je m'arrête.
Ah oui, du coup, il y avait cette question de, on propose du coup de tous les produits dans les supermarchés coopératifs pour essayer de n'exclure personne. Mais il y a cette grande question qu'on retrouve dans beaucoup de coop et de mouvements associatifs et militants, c'est est-ce qu'on réussit à n'exclure personne ? Et Astrid, par exemple, dans les AMAP, est-ce que c'est une question qui se pose, est-ce que les 50 000 Amapiens, Amapiennes d'Île-de-France sont tous des bacs plus 5 blancs et blanches, ou comment, enfin, qui sont-ils, elles, ces Amapiens et Amapiennes?
Avant de revenir sur qui sont les Amapiens et Amapiennes, je veux bien juste donner quelques éléments sur la question du prix et du coût de l'alimentation, parce que c'est vrai que c'est important de revenir là-dessus. Nous, ce qu'on vient défendre dans le modèle AMAP, c'est que cette relation directe entre paysans, paysannes et AMAPiens, AMAPiennes, elle va permettre à la ferme de fixer un prix de production à partir de ses charges réelles. Donc nous, ce qu'on invite les fermes à faire, c'est faire un travail d'identifier quelles sont les charges, combien je souhaite me rémunérer, et puis ensuite de diviser ça par la production qu'on a en capacité de faire pour savoir bon bah voilà combien coûterait la part de récolte annuelle pour chaque AMAPien, donc le panier de légumes sur l'année. Ça c'est un travail qui permet d'avoir un chiffre qui sort le prix du panier AMAP de la logique de marché et d'offre et de demande. Malheureusement, c'est pas toujours un travail qui est fait par toutes les fermes, mais quand ce travail-là il est fait, bah, ça permet vraiment d'avoir un modèle qui soit plus rémunérateur pour les fermes et qui permette aux AMAPiens et aux AMAPiennes de comprendre le vrai coût de l'alimentation, parce qu'avec ce travail-là vient toujours un travail aussi de pédagogie, justement, de camembert, de dire, bah voilà, sur les 25 euros que vous payez, tant servent à payer les salariés le paysan ou la paysanne, tant servent à payer les semences, les frais de transport, etc. Mais c'est vrai que dans tous les cas, le coût de l'alimentation restera cher, parce que faire des légumes en bio, ça implique énormément de temps de travail humain, et ce temps de travail, il coûte beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, dans le contexte d'inflation actuelle, certains producteurs bio vont dire qu'ils peuvent être plus impactés par une augmentation du point du SMIC que par une augmentation du pétrole ou de certaines charges agricoles, parce qu'en fait, sur le coût global de la production, ça reste plus à la marge, on va dire. Donc, il y a un enjeu de faire accepter, enfin, échanger sur cette réalité du coût de l'alimentation et voir comment on peut travailler à ce que ce coût soit quand même accessible à un plus grand nombre de personnes. Donc on avait lancé une étude en 2021 au sein des AMAP d'Île-de-France pour savoir si les AMAPiens et les AMAPiennes étaient des bobos. C'était comme ça qu'on l'avait formulé. J'ai pas suivi moi cette étude à ce moment-là, donc j'ai pas tous les résultats en tête, mais les conclusions qui étaient sorties, c'est que en effet, on est quand même sur un public qui a un capital culturel et social assez élevé. C'est pas forcément le capital financier le plus important. Et ça d'ailleurs, même en dehors de la map, c'est pas les gens les plus riches qui mangent bio. Il y a plein de gens riches qui mangent pas bio. Donc pour moi, il y a aussi comment on va voir ces personnes-là pour leur dire qu'elles ont les moyens de manger bio et qu'elles le font pas. Ça pose quand même vraiment question. Mais c'est sûr qu'en effet, les AMAP ne sont pas les lieux, ce sont pas encore les espaces les plus accessibles pour toutes et tous. Pour autant, et ça depuis le début des AMAP, il y a des gens qui se posent cette question-là. Par exemple, à Paris, on a le cas de l'AMAP Patate 12, qui dès les années 2000-2010 va réfléchir au sein de l'association sur une variation du prix en fonction des revenus de chaque adhérent. Donc en fait, on va garantir à la ferme le même prix, le prix qu'elle nous propose, et en fait, certains AMAPiens vont payer plus et d'autres vont payer moins. Et la régule se fera en fonction du nombre d'AMAPiens qui peuvent payer plus et du nombre d'AMAPiens qui ont besoin de payer un peu moins. Donc ça permet de faire baisser un peu marginalement le prix, c'est pas énorme non plus. Et puis il y a d'autres AMAP qui vont plus loin et qui vont aller chercher des financements pour payer 50, 60, 70% du panier pour qu'il y ait un reste à charge qui soit abordable pour des populations à revenus très très limités. Après, quand elles font ce travail, il y a quand même un enjeu, je pense, d'être en partenariat avec d'autres acteurs qui ont plus l'habitude d'aller vers des publics plus larges, parce que en fait, une AMAP peut avoir des paniers qu'elle peut financer, mais en fait, il faut encore qu'elle trouve les personnes à qui ce modèle-là pourrait convenir, parce que toutes les personnes précaires n'ont pas forcément des cuisines ou du temps pour cuisiner. Il y a aussi des fois une question de décalage entre les légumes qu'elles ont l'habitude de cuisiner et les légumes qu'il y a dans la map. Donc il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il faut faire travailler plusieurs groupes ensemble pour réussir à toucher des publics plus larges. Et surtout s'assurer que ce soit une alimentation qui soit choisie par ces personnes et pas imposer ce qu'est une alimentation saine ou de qualité ou durable. C'est aussi on essaie aussi d'être vigilant à cette question-là.
Et toi, Julien, dans tes deux expériences de supermarché coopératif, Montpellier et à Metz, quel constat, quelles leçons
sur la mixité? Le niveau de revenus, l'alimentation, un peu tout ça en même temps. Ouais, c'est super intéressant. Enfin, je suis complètement en phase avec tout ce que tu dis, Astrid, hein, notamment sur le le choix laissé aux personnes de définir ce qu'elles ont envie de manger, hein, c'est un peu ça l'essence du mouvement Food Justice. On a beaucoup de projets publics ou parapublics. Là, encore hier, j'étais à une revue sur des paniers bio. Ils ont été chercher un gros appel à projet. Ils ont eu plein d'argent pour donner des paniers bio à des familles populaires. Alors, on ne sait pas quelle famille populaire ou qu'est-ce qu'il y aura dans les paniers bio, etc. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un reste à charge de 3,50 €. En gros, ils veulent réinventer une AMAP institutionnelle, ce qui est ridicule. Donc bon, je me fais plaisir en leur disant, bah, écoutez, vous êtes mignons, mais votre truc, ça ne tient pas debout pour l'instant. Après, si on peut aider, nous, on aidera, mais ce n'est pas la priorité. Sur la mixité de population, alors évidemment, on a déjà fait le constat plus tôt dans l'émission, les populations ne sont pas mixtes. On peut faire de la discrimination positive, on peut agir à court terme, immédiatement, faire un petit peu des engagements personnels à petite échelle pour essayer de rectifier un peu quelques taquets, des petits trucs. Mais je pense qu'il faut aussi regarder le moyen et le long terme et voir ce qu'on peut faire en fait sur la durée. Alors effectivement, les financements publics, pour moi, c'est notre argent, c'est celui des citoyens. Je pense qu'il faut avoir aucun scrupule à les mobiliser au service d'initiatives comme la sécurité sociale de l'alimentation. C'est pas une des nouvelles, c'est en phase expérimentale ou pratique à plein d'endroits, dont Montpellier. On a une caisse alimentaire citoyenne, on a un groupement de personnes qui définit les aliments, les prix, on a un réseau de enfin ça c'est grâce au boulot du Civem Bio à Montpellier et autres. Il y a un boulot à faire avec ça. Il y a l'impensé logistique, c'est-à-dire que actuellement l'agriculture c'est du pétrole, hein, enfin c'est du carbone, c'est des camionnettes de producteurs qui font la queue tous les matins devant le supermarché. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir, je pense, à relativement court terme sur l'emport producteur, c'est-à-dire essayer de mettre en place des plateformes avec des personnes salariées qui vont s'occuper d'aller collecter les produits sur place plutôt que de demander aux producteurs qui ont déjà fort à faire d'assumer la logistique. Et après, à long terme, évidemment, il y a les terres. Hein. Là, en Ile-de-France, c'est pas une nouvelle problématique. C'est empêcher la bétonisation, les Amazones, les pseudo-éco-quartiers, et essayer d'occuper la terre, hein, et d'en tirer notre subsistance collectivement, et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut s'éduquer ensemble, à comment est-ce qu'on produit les trucs. Et là-dessus, sur les classes populaires, il y a des savoirs qui sont pas encore détruits. Moi, là, dans la COP de Metz, j'ai plein de personnes qui sont très clairement ouvriers. C'est très marqué, si tu veux. Il y a un décalage entre ces personnes qui sont là dans la COP, qui viennent acheter des produits bien spécifiques. Ils viennent chercher la boîte de thon. Alors, c'est pas du tout un thon pêche durable, hein, c'est le thon à 1 € la boîte, mais il est moins cher qu'ailleurs, donc ils viennent l'acheter, ils se font des pizzas avec. Ben, ces personnes-là, elles ont des jardins ouvriers, elles sont dedans, elles ont des socialités ouvrières dans ces jardins, elles produisent des légumes, elles amènent des trucs, elles ont des savoirs, elles ont des choses à apporter. Et moi, j'essaie de faire super attention à ce qu'elles trouvent leur place dans la COP et qu'elles ne soient pas jugées. Si tu veux, on a des espaces assez libertaires, mais il y a une chose qui est interdite, c'est de faire des commentaires sur l'alimentation des autres. Si tu te mets en caisse et tu commences à dire « Ah, mais t'as acheté un surgelé, tu sais que c'est dégueulasse comme bout, bah ouais, mais écoute, qui t'es pour me juger ? En fait, moi, j'ai 3 gamins, j'ai pas de cuisine, j'ai un surgelé, faut que je bouffe, j'ai le droit d'acheter ça sans avoir de commentaire. » Donc, il y a déjà eu 2-3 clashs là-dessus. Je finis avec les données mixité sociale. Nous, on a, pour rejoindre la COP, il faut acheter des parts sociales. La part est à 10 €, on demande aux usagers d'en acheter 10. On a un tarif social où les personnes vont en acheter une seule. Donc, on a en gros un tarif de souscription unique, une fois en ta vie, de 100 € pour tout le monde et de 10 € pour les personnes qui ont des moindres revenus. On les laisse décider si elles sont concernées par ça ou pas. C'est-à-dire, c'est un tarif social autogéré. Et ben, je suis super surpris parce que sur nos 400 membres aujourd'hui à Metz, on vient de démarrer là, on pensait qu'il y aurait 25% de tarifs sociaux et nous avons 7%. Ça veut dire qu'en fait, très peu de personnes font le choix d'elles-mêmes d'adhérer pour 10 €. Et bon, alors moi, je n'ai pas le compte en banque des gens ni leur fiche d'impôt, mais je vois des personnes dont visiblement elles n'ont pas beaucoup de revenus faire quand même l'effort d'adhérer pour 100 €. Et je ne sais pas trop comment interpréter ça. Bon, pardon, j'ai mélangé plein de questions, je m'arrête.
Non, c'était assez clair. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve après pour parler d'ailleurs un peu plus du problème de la terre et de la terre agricole et de l'approvisionnement. À tout de suite. Costumerus.
l'enfant des seigneurs, chrétien la lune, al présent conjugado. Nous mous et son calas, imperius sabio me,
Fréquence Paris Pluriel et Zoom Écologie pour cette émission consacrée à l'alimentation de la ville avec Astrid Girard du réseau Amapi de France et Julien Guillaume-Schmidt du supermarché coopératif Graucoop à Metz. Et du coup, je vous propose qu'on parle un peu de vos liens avec les terres agricoles et peut-être les structures qui s'occupent de l'installation paysannes et aussi des particularités régionales avec lesquelles on doit composer selon où on est. Hein. Julien, on s'est connu à Montpellier. Bon, à Montpellier, autour de Montpellier, concrètement, il y a de la vigne, essentiellement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vignes. Et on ne peut pas manger que du raisin et ne boire que du vin. Donc j'imagine qu'à Metz, la problématique est un peu différente et en Ile-de-France, c'est encore autre chose. Et je sais qu'il y a des structures comme Terre de Liens qui existent pour favoriser l'installation paysanne en bio. Astrid, tu veux commencer par nous parler de ça?
Oui. Le réseau Amapi Île-de-France donc s'est retrouvé à travailler sur la question de l'installation agricole face au manque de fermes qu'il y avait maraîchères pour répondre aux besoins des AMAP. À cette époque, donc dans les années 2005-2008, dans notre écosystème, Terre de Liens existe déjà. Donc il y a une antenne qui est en train de se créer à l'échelle de l'Île-de-France. Et avec d'autres acteurs comme le groupement des agriculteurs bio, on constate qu'il manque des structures d'accompagnement de certaines étapes dans un parcours d'installation.
Notamment la partie d'émergence du projet, on va dire. Donc ça veut dire une personne qui va se poser des questions, de dire peut-être que le métier agricole ça m'intéresse, pour l'accompagner jusqu'au stade où finalement elle va peut-être choisir de s'installer ou choisir de ne pas s'installer, parce que des fois c'est aussi l'aboutissement d'un projet. Et donc va naître la structure Abiosol, Donc, à l'échelle de l'Île-de-France, c'est une structure qui va accompagner l'émergence de projets en favorisant notamment l'immersion, donc pousser les personnes à aller sur des fermes, faire des stages, voir différents modèles, se tester pour voir si ça leur correspond vraiment. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le profil de personnes qui veulent s'installer a changé et on a beaucoup plus de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole qui souhaitent s'installer en agriculture et donc qui ont besoin d'être accompagnées par d'autres acteurs que ceux qui ont l'habitude de travailler avec des personnes qui sont issues du milieu agricole. Et une autre structure donc auquel on a dont on a participé à la mise en place, c'est la structure des champs des possibles qui fait aussi partie d'Abiosol. Les champs des possibles, c'était partie d'un projet d'amapiens et de paysans paysannes qui se sont dit que ce serait intéressant en Île-de-France d'avoir une ferme qui permette d'accueillir une personne en test, donc que cette personne puisse s'essayer au métier de maraîcher ou au métier d'éleveur ou au métier de paysan boulanger pendant 1 à 2, 3 ans pour voir si ça lui correspondait bien avant de faire tout un désinvestissement, avant de potentiellement déménager son foyer, voilà. Et donc de s'essayer sur une ferme qui existait déjà, soit seule, soit avec une personne qui était déjà installée à ses côtés. De ce projet de ferme a émergé un projet d'archipel de ferme. Et donc, la coopérative Les Champs des Possibles a mis en place, avec des fermes déjà installées, des espaces d'accueil pour pouvoir faire du test d'activité dans le domaine agricole. Donc ça, c'est une étape qui est vraiment importante aujourd'hui pour avoir ensuite des installations qui soient viables et pérennes et pour s'assurer qu'on n'envoie pas les personnes entre guillemets au casse-pipe. Donc qu'elles se soient bien essayées avant d'avoir réalisé un certain nombre d'investissements. Et ouais. Peut-être pour donner un peu plus d'éléments sur le contexte francilien agricole, ce qu'on voit aujourd'hui actuellement, on parle beaucoup de la crise du bio ou de la du recul des fois du nombre de la surface en bio. En Île-de-France, on est plutôt sur un plateau que sur une baisse, donc on est aux alentours de 8% de surface agricole en bio, à savoir qu'on est quand même un peu en retard parce que on a une moyenne nationale de 10%. Et que aujourd'hui quand même une grande partie de ces surfaces est liée quand même à la conversion de fermes céréalières vers le bio, donc c'est ces fermes là qui sont très visibles dans ces chiffres sur les surfaces. Pour autant, la dynamique d'installation, elle, reste la même. Après, on est dans un contexte où le foncier coûte extrêmement cher et n'est pas toujours accessible, où les fermes qui sont à reprendre, donc quand un agriculteur ou une agricultrice part à la retraite et qui souhaite céder sa ferme, en Île-de-France, la plupart de ces fermes sont des fermes céréalières sur des très grandes surfaces qui coûtent très cher à reprendre et qui sont des fois où il y a un grand décalage avec ces fermes-là et les projets d'installation qu'on a actuellement. Donc, il y a un enjeu d'accompagner sur le temps long le parcours de transmission de cette ferme pour voir comment l'outil de production peut évoluer pour permettre à plusieurs personnes déjà de s'installer plutôt qu'une seule. Et puis, pour diversifier aussi les activités de production qu'il y a sur cette ferme. Et donc, dans cet écosystème, dans ce parcours-là, Terre de Liens a aussi quand même un rôle potentiellement important à jouer pour voir comment on peut faciliter l'accès au foncier par un foncier qui est détenu par des citoyens et citoyennes. Mais je ne maîtrise moins ce sujet, donc je ne vais pas me lancer trop là-dedans.
Ouais, bah heureusement qu'il y a Terre de Liens et des espaces fonciers agricoles, parce que, disons les choses, la paysannerie française est en train de crever. On a, je sais plus les chiffres, mais la moitié des exploitants et exploitantes partent à la retraite dans les prochaines années. On a une agriculture de firme et non plus de ferme qui se met en place un petit peu d'ailleurs, comme la grande distribution qui a tué les artisans, les réemploie dans ces pseudo-rayons trad que le boucher qui est plus indépendant, tu l'as chez Auchan en train de servir de la viande. Ben là, c'est pareil, tu n'as plus d'agriculteurs et agricultrices indépendantes. Ils sont au service d'une ferme qui achète des milliers d'hectares parce qu'elle en a la capacité financière. Et oui, on a un vrai. Alors le constat, tout le monde le fait. Après, les solutions qui sont proposées, selon les bords politiques dans lesquels on se situe, ne sont pas les mêmes. Moi, je côtoie pas mal d'institutionnels et de gens de chambres d'agri. Donc, c'est la FEDE, hein, c'est le syndicat agricole dominant qui a coproduit les politiques agricoles en France depuis 50 ans, avec les résultats qu'on connaît. Mais leur raisonnement, c'est bah, il faut encore faire encore plus de la même chose, il faut encore faire plus d'économies d'échelle, il faut des smartphones et puis de la technologie, et puis des tracteurs qui fonctionnent tout seuls sur GPS, et puis plus d'engrais, et puis plus d'OGM, et puis ça va aller mieux, bien sûr, évidemment. Ça, à cause de ça, rien ne va, mais en faisant encore plus, ça ira mieux. Même recette que le capitalisme. D'ailleurs, c'est le capitalisme, c'est le même truc. Donc, face à ça, tu as des gens un petit peu plus raisonnables, comme par exemple la Confédération Paysanne, qui propose l'installation d'un million de paysannes et paysans en France dans les prochaines années. Et c'est pas, ça ne demande pas tellement d'investissement, ça ne demande pas plus d'investissement que les projets technophiles et écocides actuellement mis en avant. Donc, je pense qu'il y a un changement politique à faire. C'est super cool qu'on ait nos initiatives citoyennes en face de ça. Mais encore une fois, on est une goutte d'eau dans un océan d'argent et on est rien, quoi. On n'est même pas sur leur radar. Donc, moi, je pense qu'il y a une révolution paysanne à mener dans ce pays et ça passe par un soutien citoyen sur l'accès aux terres. Alors, bon, l'Île-de-France, des terres agricoles, il n'y en a pas partout. Nous, ici à Metz, pour répondre à la question de départ, on est effectivement, Montpellier, c'est Olive et Vigne est sorti de là, à part à Mouguio, là où il y a quelques terres, c'est un peu difficile de nourrir le territoire. À Metz, ça va être polyculture élevage, ben, on est sur, ils ont du céréal, de l'oléagineux, et puis de la vache en viande, mais c'est pareil, et pour vivre, même s'ils sont moyens, c'est difficile, ils essaient de faire des colis de viande, dans une filière qui est sinistrée, la viande, plus personne en mange, ou de moins en moins, en tout cas, la viande rouge. Et on a, oui, il y a une vraie problématique pour tous les paysans et paysannes installés. Certains s'en sortent mieux que d'autres, mais encore une fois, c'est des exceptions. Donc, il faut se poser, en fait, la question de comment on aide celles et ceux qui nous nourrissent. Qu'est-ce qu'on leur offre? Qu'est-ce qu'on leur propose? Pour moi, faire une brigade de gendarmerie pour protéger la grille industrie, là, d'Emeter, c'est pas la priorité.
Et après, peut-être aussi, comme il y a la question de quel métier on propose de paysan ou de paysanne, et comment on peut aussi imaginer, le métier de paysan ou paysanne, pas comme un métier de toute une vie, mais un métier d'une période de sa vie, et construire du coup des modèles de ferme derrière qui permettent à des gens de faire de l'activité agricole pendant 10 ans et puis de faire autre chose. Parce qu'en fait, c'est un métier qui va rester difficile. C'est un métier qui demande énormément de compétences, énormément d'énergie, de capacité physique et mentale. Et donc, en fait, c'est normal de pas vouloir le faire toute sa vie, je pense. Mais derrière, il faut penser des modèles de ferme qui permettent de faciliter les entrées, faciliter les départs.
Ça se socialise, en fait. On a un SNU qui est une parodie de service militaire pour embrigader les jeunes, qui est ridicule. Pourquoi on n'aurait pas un service agricole? Pourquoi est-ce qu'on a le woofing? Il y a plein de gens qui font du woofing, qui font spontanément du service agricole. Pourquoi on ne dirait pas à chaque citoyenne et citoyen passe 3 ou 6 mois de sa vie dans une ferme à bosser, se rendre compte un petit peu des réalités du travail de la terre, que la subsistance, c'est pas je clique sur un bouton et des robots vont me couper le maïs. Il faut un petit peu, il y a une équité dans la sueur qu'il faut un peu conquérir à un moment. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça rapidement?
Ben, si on se dirige vers ce que j'imaginais comme la dernière partie de l'émission qui est le futur et dans quelle utopie on peut se projeter. Ça me fait penser à ce qu'imaginait Alessandro Pignocchi dans Un grand Raoult des soulèvements de la terre, je crois, où il imaginait comme ça effectivement que pour réintroduire de la saisonnalité dans les activités humaines et que du coup au moment des moissons, des grands mouvements de la ville vers les champs pour aider aux moissons. Ça rappelle un livre que tu as lu, Julien, me souviens, Au commencement était de David Graeber et David Mangro, que je recommande très chaudement, qui parle de plein de moments et de lieux dans l'histoire humaine où les populations ne faisaient pas toute l'année la même chose tout le temps et au même endroit. Il y avait des mouvements en fonction des saisons, des nécessités de culture, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite? Est-ce que dans les AMAP, vous avez une cellule utopie, des idées de qu'est-ce que vous voulez faire si jamais les AMAP arrivent au pouvoir en France, quel est votre programme?
Tout à l'heure, on parlait de sécurité sociale de l'alimentation. C'est sûr que nous, ça nous ferait rêver un monde où chacun aurait le droit et le financement pour pouvoir consommer en AMAP les produits qu'il le souhaite et des produits de son territoire. Bon, si ça c'était accessible partout, si les personnes aussi avaient du temps pour le faire, parce que prendre le temps de cuisiner, prendre le temps de s'investir dans une association où on va rencontrer les gens de son quartier, bah voilà, il faut avoir à côté une autre activité professionnelle qui nous laisse cet espace-là. Donc une semaine de 28 heures pour tout le monde, ça ce serait chouette aussi. Et puis je pense que ce qu'on voudrait, c'est des paysans et des paysannes heureux et heureuses. Et donc pour ça, il y a quand même un enjeu de lutter contre l'isolement qu'on peut ressentir dans ce métier face aux aléas, donc de faciliter les installations collectives aussi, qui demandent par ailleurs beaucoup d'accompagnement, parce que c'est pas évident non plus de travailler à plusieurs, de faciliter renforcer le lien entre les paysans et paysannes et leur territoire, donc pour pas qu'il y ait d'isolement. Donc la présence, par exemple, ce qu'on voit, c'est que les ateliers où des amapiens et amapiennes viennent sur les fermes, ça a pas forcément une vocation d'efficacité, mais l'appui moral que ça apporte aux fermes, il est vraiment très fort et il peut faire la différence. Et puis surtout des paysans et paysannes qui sont rémunérés pour leur travail. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu de payer le juste prix de l'alimentation et qu'on puisse parler de cette question-là, de combien est-ce qu'on mérite de gagner quand on travaille la terre. Et on a des belles expériences en AMAP où on voit certaines AMAP qui, en découvrant combien se rémunérer leur maraîcher ou leur maraîchère, décident de collectivement d'augmenter le prix du panier pour lui permettre de se rémunérer à la même hauteur que eux sont rémunérés. Donc c'est sûr que c'est une AMAP où il y a quand même forcément un certain niveau de revenus pour pouvoir avoir cette réflexion-là. Mais n'empêche, je trouve que c'est chouette de se dire que la personne qui produit nos légumes et qui nous nourrit mérite d'être payée aussi bien que nous-mêmes, quoi.
Et Julien, pour les coopératives.
Elle a tout dit, Astrid, hein, j'ai rien à rajouter. Hein. C'est clair que la vraie richesse, c'est le collectif, c'est vivre ensemble, c'est passer du temps ensemble, faire des choses ensemble. Même si c'est pas efficace ou productif, c'est essayer de faire un bout de chemin ensemble. Je pense que c'est vraiment ça l'idée. On essaie de, en anglais, t'as walk a mile in my shoes. C'est tu fais un kilomètre dans mes chaussures, quoi. Essaie un peu mes chaussures, essaie de faire un kilomètre dedans, voir ce qui se passe. Là, les personnes qui écoutent cette émission, je pense, sont majoritairement dans un environnement urbain, super dense. Ils regardent par la fenêtre, ils voient peut-être un ou deux arbres, mais bon, une terre cultivable à s'approprier, il y en a pas. Faut qu'ils prennent un RER ou je sais pas quoi pour aller à Perpète, pour avoir une chance peut-être de voir un peu une rivière. Voilà. Je pense que oui, le plus important c'est ça, c'est faire des choses ensemble, si possible dans la terre, parce que ça a toujours un sens. Mais on peut aussi faire dans son quartier. On peut aussi, quand on a des lieux, nous la Supercoop, l'idée c'est de vraiment faire du lien dans le quartier. Alors oui, on fait des ateliers autour de l'alimentation, mais pas que, quoi. Si les gens ont envie de venir faire un truc étirement, yoga, ils font. On a un parking, on va faire une brocante sur le parking. Bon, ben, a priori, c'est pas très écolo, mais pourquoi pas, vidons nos greniers. On a une zone de gratuité, il y a plein de gens qui ramènent des trucs utiles, réutilisables. Ça n'a pas d'utilité financière ou productive immédiate, mais ça a un sens profond pour faire du collectif. Et je pense que l'avenir est pas très riant pour nous autres. Si on n'a pas des collectifs solides, si on n'a pas cette vraie richesse d'un collectif solide, on n'ira nulle part. Et les solutions technicistes sont de la foutaise, mais bon, ça réclame une autre émission.
Et du coup, une dernière question qui me touche, parce que j'aime beaucoup, pour le coup, voyager à travers la France, c'est pourquoi pas une confédération des AMAP et des supermarchés coop à travers la France pour que, même si je bouge, je puisse rester dans une structure coopérative et fraternelle et ne pas avoir à aller au bio c'est bon du coin parce que je n'ai pas fait mon créneau à Metz vu que je viens d'arriver.
Oui, bah. Ça existe, je te donnerai l'adresse si tu veux, c'est les Basques qui ont mis ça en place, il y a un pass national pour les super coop. Enfin, nous on n'est pas inscrits, mais on fait quand même, si quelqu'un dit je viens de Besançon ou de Paris, je suis dans une coop, on le laisse rentrer faire ses courses, hein. Même limite, s'il dit je suis dans une AMAP, je pense pas qu'on va le lâcher à coup de pompe dans le train. Puis les AMAP, ils sont vachement structurés aussi, dans la parole en début d'émission, je te laisse la parole, pardon.
Oui, c'est vrai que très rapidement les AMAP, la particularité c'est que le mouvement s'est développé à des échelles plus locales, donc soit de départements voire de villes. Par exemple à Marseille, c'est les paniers marseillais, il y a un réseau en Isère juste sur le département de l'Isère. Mais donc cette puissance-là, régionale et locale, elle fait que le à l'échelle nationale, on n'a pas une structure qui est très conséquente. Donc on a quand même le MIRAMAP, que le mouvement interrégional des AMAP, qui va regrouper les réseaux d'AMAP. L'objectif, c'est de favoriser le partage d'expériences, le partage de d'outils, parce que on est face aux mêmes réalités, même si il y a 1000 façons différentes de faire de l'AMAP, et chaque AMAP toutes les AMAP sont différentes. Et donc on a déjà quand même cet espace-là, le MIRAMAP, qui va permettre de voir un peu l'étendue des AMAP à l'échelle du territoire. Il y a une carte, il me semble, avec les AMAP un peu partout en France. Et puis si vous êtes dans un secteur où il n'y a pas d'AMAP, sachez que vous pouvez toujours trouver facilement des ressources pour savoir comment créer une AMAP. Je pense que vers chez vous, peut-être que vous pouvez trouver déjà une ferme maraîchère pour démarrer votre premier partenariat, et que je pense que ça l'intéressera sûrement d'avoir une partie de sa production déjà commercialisée avant même d'avoir mis quoi que ce soit en terre, et puis surtout créer un lien humain avec les gens que cette personne nourrirait. Donc n'hésitez pas.
Et il reste de la place dans les AMAP d'Île-de-France, Astrid, si vous voulez.
Voilà, oui, c'est ce qu'on disait aussi pendant la petite pause. Il reste de la place dans les AMAP d'Île-de-France. On est dans un contexte où on a vu une évolution un peu du nombre d'adhérents dans les AMAP après le Covid, de façon un peu surprenante. On aurait pu s'attendre à ce que les gens ils perdurent un peu les bonnes pratiques, bonnes habitudes qu'ils avaient pu prendre. Ben, à l'inverse, on voit que quand même, on est dans un contexte où les personnes ont, d'après les enquêtes qu'on a pu faire, ont moins de temps disponible, ne serait-ce que pour aller à la distribution chaque semaine ou toutes les deux semaines, et aussi pour cuisiner les légumes et les produits chez eux. Pour moi, c'est très inquiétant, parce que ça révèle aussi des changements d'habitude de consommation, d'alimentation, qui peuvent avoir un impact de santé publique très fort, et puis même moralement. C'est bon pour le moral de se faire à manger. Donc voilà, il y a un peu comment on défend aussi notre façon de prendre du temps pour se nourrir. Et puis nous aussi, ce qu'on a pu voir en Île-de-France, on est dans un territoire aussi où on a la particularité d'avoir des fois les populations qui peuvent être en AMAP peuvent avoir tendance à ne pas vouloir rester dans l'Île-de-France, et notamment dans le cœur dense urbain parisien. Donc on a quand même plus de mouvements de population et de déménagement parmi les adhérents et adhérentes. Donc on a certaines territoires où les AMAP doivent être vraiment plus proactifs pour trouver de nouveaux adhérents et adhérentes. Et donc sachez qu'il y a de la place dans les AMAP, voilà, mais que la dynamique est quand même rassurante, parce qu'on voit que dans certains territoires comme le 92, et ben le nombre d'adhérents a augmenté ces dernières années. Donc s'il a peut-être baissé dans les AMAP parisiennes, il a augmenté dans le 92, et il est stable à l'échelle de l'Île-de-France.
Et Graoucop continue de recruter, j'imagine.
Oui, bon, si on a qui vivent à Metz ou qui viennent de temps en temps, oui, évidemment, on a ouvert il y a 5 semaines, hein, donc. On n'est pas exactement, on n'a pas recruté autant de personnes que ce qu'on pensait, mais on n'est pas loin. Et surtout, j'essaye moi de recruter des structures partenaires dans l'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas grand monde à Metz, mais ça me paraît intéressant que plutôt que d'aller faire des achats au champ, elles puissent devenir sociétaires d'un supermarché qui les aide aussi pour organiser leurs événements, hein, dans la même perspective que ce qu'on disait avant. Mais on recrute partout, et puis bon, les AMAP ou les Supercop, c'est un truc, mais c'est pas les seuls, il y en a d'autres. Il y a plein d'initiatives dans tous les coins, plus ou moins fédérées, plus ou moins identifiables, plus ou moins intéressantes selon les besoins de chacun. Ben, je t'encourage, toi qui entends ça, à sortir de chez toi, regarder ce qu'il y a et te bouger le cul, parce que sinon, ça va pas changer beaucoup. Donc, ne râlons pas, motivons, voilà.
Et puis peut-être aussi prendre le temps de s'informer, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui peuvent pulluler sur accéder à des produits plus ou moins vertueux, plus ou moins qualitatifs, plus ou moins durables, plus ou moins locaux. Et ce qu'on voit aussi, c'est quand même pas mal de réappropriation des fois mercantile de ce principe de se nourrir mieux. Et donc il y a un enjeu, je pense, à différencier des initiatives collectives comme les AMAP ou les supermarchés coopératifs, d'initiatives avec un but lucratif comme les plateformes qu'on peut voir en ligne d'achat de produits, ou en termes d'information sur la répartition du prix et de la valeur, et puis l'approvisionnement. Je trouve que le niveau d'information des fois est quand même très très discutable, et donc il y a un enjeu en tant que consommateur, consommatrice, de réussir à s'y retrouver dans tout cet univers-là.
Exact. Too good to go ou HelloFresh, c'est pas du tout ce que ça dit être. Hein. Ça n'aide personne, ça n'est pas écologique, ça ne t'aidera pas à aller mieux, ni à mieux manger. C'est pas ça qu'il faut prendre. Et bon, Yuka, on m'a montré ça l'autre jour. Tu peux regarder sur ton smartphone des trucs. C'est pas si mal, c'est mieux que rien, mais bon.
Et c'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé, mais dans les structures comme les supermarchés coopératifs ou les les épiceries autogérées. Il y en a d'ailleurs en Île-de-France, vous pouvez vous renseigner, notamment à Saint-Denis. Les prix sont inférieurs à ce qui se fait, toutes choses étant égales par ailleurs.
Oui, bah encore heureux, c'est déjà tu bosses côté à manger pour moins cher quand même.
Nous allons clore cette émission. Je vous remercie très chaleureusement, Julien et Astrid. Voilà, c'était Zoom Écologie et sur Radio Fréquence Paris Pluriel, qui a besoin de dons d'ailleurs aussi et d'engagement comme beaucoup de structures. Mais n'hésitez pas à faire un petit don à FPP. On se retrouve sur Zoom Écologie un futur jeudi.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.